Chapitre 18. Même après la trahison de ses sujets, Thora restait persuadée qu'Ildakar était à elle. Sa légende, sa prospérité, son ordre social et son âme, c'était à elle que la ville les devait et à personne d'autre. Dans la tour du pouvoir, elle avait supervisé la croissance de son fief, le regardant s'étendre peu à peu jusqu'au sommet du plateau. Depuis des siècles, elle régnait sur son domaine et le protégeait. Mais ses sujets s'étaient retournés contre elle. Oui, ils avaient renié leur souveraine, oubliant qu'il n'aurait rien été sans elle. À présent, si Outros et ses soudards rasaient la ville parce qu'il lui manquait une dirigeante avisée, ça leur ouvrirait peut-être les yeux. Avec un peu de chance, il ne serait peut-être même pas trop tard pour inverser la tendance. Dans sa cellule exiguë, Thora avait l'impression d'être prise dans un étau. Fermant une main, elle sentit que ses doigts lui obéissaient avec peine, les séquelles du sort de pétrification lancé par Elsa, Damon et Quentin. Nichée dans les entrailles de la falaise, le donjon où elle croupissait était plongé dans une nuit éternelle, un cadre adéquat pour quelqu'un qui broyait du noir. Face à elle, la porte épaisse d'un demi-pied était fermée par une imposante serrure et par une lourde barre de fer. Pour y avoir envoyé nombre de nobles et d'autres citoyens récalcitrants, Thora connaissait très bien ce donjon. Un endroit où ses adversaires avaient séjourné pour expier leurs crimes et, dans certains cas, pour les racheter et se réhabiliter. Aucune sentence, jamais, n'avait été injuste, sauf celle qu'il avait envoyée dans ce trou à rats. Sans nul doute, Thora était la plus puissante magicienne qu'Ildakar ait connue. Du coup, son règne avait duré plus de 15 siècles. Avec son don, faire exploser la porte aurait été un jeu d'enfant, n'était l'essor de garde installé depuis très longtemps par les sorciers. Fondamentalement, ses défenses agissaient comme les runes gravées sur le pelage des fauves ou la peau des moracites. Thora pensa fugitivement à Adessa, sa plus fidèle alliée. À coup sûr, elle trouverait ce minable de Maxime et lui ferait la peau. Hélas, la souveraine ne serait pas là pour assister au spectacle. Son mari, elle le haïssait plus que tout au monde. À côté de ce qu'il lui avait fait, ses malheurs actuels n'étaient que des contrariétés. De toute façon, avant même qu'Adessa lui ait rapporté sa tête, elle aurait retrouvé sa place à Ildakar, la seule qui lui revenait de droit, la première. Dans la cellule obscure, Thora serra plus fort le poing, traversa la pièce à l'aveuglette et atteignit la porte d'où filtrait à travers le guichet une pâle lueur grise. Dans le couloir, on sacrifiait très peu de bois pour faire brûler des torches, et personne n'aurait gaspillé son énergie à lancer un sort de transfert pour produire de la lumière. L'obscurité faisait partie intégrante du châtiment de Thora. Pour ses juges, en tout cas. Pragmatique, elle avait décidé que les ténèbres seraient ses alliés, un refuge où évaluer sa situation, puis imaginer les plans qui s'imposeraient. Thora plaqua une main contre la pierre lisse du mur, mais ses perceptions furent étouffées par la gangue minérale qui emprisonnait encore ses chairs et ses terminaisons nerveuses. Sa peau, jadis si sensible, ne lui envoyant aucune indication, elle ferma de nouveau les poings et frappa le granit de la main droite, oui, exactement comme le faisaient les soldats du général Outros à demi pétrifié. Même en cognant fort, elle n'éprouva qu'une douleur fantomatique. Sa curiosité en éveil, elle cogna de l'autre main et obtint le même résultat. Bien entendu, le bloc de pierre qu'elle visait n'avait pas bougé d'un pouce. Cela dit, la tentative était concluante quand même. Une humaine normale aurait eu les phalanges en sang. Elle ne se les était même pas écorchées, sa peau résistant tout aussi bien que le granit. Il fallait qu'elle sorte d'ici. Sans elle, Ildakar était perdu. Maxime était le seul responsable des émeutes. Pour le reste, Thora accusait les membres du Douma qu'il avait renversés, condamnés, pétrifiés, puis jetés en prison. À sa liste de coupables, elle ajoutait la maudite magicienne Nietzsche et son sorcier raté. Ces félons s'étaient présentés comme des émissaires de l'Empire d'Aran en quête d'assistance. Pas nés de la dernière pluie, Thora les avait soupçonnés dès le premier instant. En réalité, Nietzsche voulait devenir la prochaine souveraine, histoire de s'approprier Ildakar. À présent, l'étrangère régnait et la souveraine légitime se morfondait dans une cellule, alors que sa ville adorée était sous la menace d'une armée invincible revenue du passé. En ville, Thora avait encore des partisans, elle le savait. Dans l'obscurité, elle imagina les magnifiques bâtiments, les jardins, les vergers, les oliveraies qu'elle avait fait jaillir du néant. une si merveilleuse cité tellement proche de la perfection. Thora sentit qu'elle s'empourprait de fureur. Au nom du gardien, que n'aurait-elle pas donné pour que Nietzsche et tous les sales traîtres crèvent comme des chiens? Folle de rage, elle cogna de nouveau le mur. Longeant le périmètre de la cellule, elle se heurta à un banc de pierre très bas dont tous les angles étaient écornés, mais lisses à force que des prisonniers désespérés s'y usent les ongles, parfois jusqu'au sang. La taille fine et les épaules plutôt étroites, la Sovréna était loin d'avoir des bras de lutteuse. Sans se tenir pour une mauviette, elle ne se fiait jamais à son physique face à un ennemi. Encore victime du sort de pétrification, elle se sentait inhabituellement lourde et raide, mais son don était bien là, flamme dévorante qui brûlait dans son cœur. Une main tendue, paume vers le plafond, elle invoqua une flamme à peine plus haute que celle d'une bougie. Une étincelle d'espoir dans cet environnement triste à mourir. À sa lueur, elle repéra du premier coup d'œil les runes de garde qui encadraient la porte. Consciente que ça ne servait à rien, elle invoqua pourtant une lance de feu et la projeta sur ses symboles magiques. Bien entendu, l'attaque resta sans effet, la langue de flamme rebondissant d'un mur à l'autre avant de percuter son expéditrice. Thora sursauta, mais sa chair encore minérale la protégea et le feu magique ne tarda pas à se dissiper. Stupéfiée, la Sovréna déchue tâta son bras, là où la lance de flamme l'avait touchée. Sentant comme un picotement, elle avisa une sorte d'écorchure, mais celle-ci disparut dès qu'elle la frotta. En d'autres termes, ni la cellule ni elle n'avaient souffert. Inutile d'insister. Elle ne réussirait pas à s'enfuir, même si sa ville avait plus besoin d'elle que jamais. Une bonne heure durant, elle oublia son malheur en déversant toute sa haine sur Maxime. Comment avait-il osé monter les esclaves contre la ville à laquelle il devait tout, alors qu'on leur demandait en échange leur seule dévotion? Sans cesse, ces misérables gémissaient à propos des injustices qu'ils subissaient et du labeur qu'on leur imposait. Savaient-ils qu'ils souffraient infiniment moins que leur Sovréna, dévouée corps et âme à Ildakar? Connaissaient-ils mieux qu'elle le prix de la prospérité dont ils bénéficiaient aussi? Oui, ils étaient souvent épuisés et quelques-uns mouraient à la tâche, mais que pesaient quelques vies face à une civilisation qui brillait de tous ses feux depuis des siècles? Refuser de se donner à Ildakar, c'était plus méprisable que tout. Le gardien lui en soit témoin, elle n'avait jamais reculé devant aucun sacrifice. Tout ça pour que Maxime mine de l'intérieur sa société parfaite. Dans un lointain passé, elle avait aimé cet homme. Aujourd'hui, elle n'imaginait même pas comment on pouvait être stupide à ce point. La naïveté de la jeunesse encline à tous les débordements du cœur et du corps. Après des siècles à partager la couche de Maxime, puis celle de bien d'autres amants, Thora avait appris que le corps pouvait exulter sans qu'on y perde pour autant le contrôle de son cœur et de son esprit. Hélas, elle avait gâché ses plus belles années avec un sale type, lui pardonnant ses infidélités en série au point de ne plus être en mesure d'en tenir le compte. En un sens, son cœur s'était transformé en pierre bien longtemps avant qu'un sortilège la pétrifie. Tout ça à cause d'un rustre sans intérêt. Mais trop puissant cependant pour qu'elle puisse s'en séparer. Pragmatique, elle avait gardé à ses côtés, une figure de proue bien utile à l'occasion. Désormais, Thora jugeait qu'elle avait surestimé Maxime. En admiration devant son sort de pétrification massif, elle avait également été impressionnée par la magie du sang requise pour générer le linceul de l'éternité. Mais elle aurait pu réussir tout ça sans ce coq d'arrière-cour. Pour que l'armée d'Outreau se soit réveillée, il fallait que la magie de Maxime ait faibli. Du coup, sa fuite piteuse n'avait rien d'étonnant. Le don de Thora était-il lui aussi déclinant? Avant qu'il décide de l'abaisser pour un temps, le linceul de l'éternité montrait des faiblesses depuis un moment. Sur la pyramide, Thora avait fait ce qu'il fallait pour le restaurer, mais aurait-il tenu indéfiniment même sans le sabotage de Nietzsche? Les fondamentaux de la magie avaient changé, pire que ça, toutes les règles du monde étaient différentes, sans qu'il soit aisé de comprendre en quoi. Bien sûr, il y avait l'explication de Nietzsche, mais comment croire que Richard de Rale avait pu faire ça tout seul? Quoi qu'il en soit, Outrous et ses hommes s'étaient réveillés, comme Thora elle-même, très brièvement pétrifiée. Oui, beaucoup de choses avaient changé et elle devait en tirer parti. Pour pousser les classes inférieures à la révolte, transformant des rebuts d'humanité en bêtes fauves, Maxime n'avait pas eu besoin de son don. Animés par le désir de justice et d'égalité, des privilèges qu'ils ne méritaient pas, les gueux l'avaient suivi avec enthousiasme. De nouveau enragé, Thora s'en prit au mur avec son don. Comme un fauve qui se jette contre les barreaux de sa cage, la lance de feu fut repoussée en arrière et se dissipa comme si elle n'avait jamais existé. Thora baissa les yeux sur ses mains, encore crépitantes d'étincelles. Assise sur le banc de pierre, elle recommença à s'y user les ongles, l'oreille tendue pour capter au moins un son dans un silence de mort. Dans le noir, toute notion du temps se délitait. Des minutes, des heures ou des jours plus tard, une lueur plus vive qu'à l'accoutumée filtra du guichet. Puis il y eut des bruits de pas et enfin le cliquetis métallique d'un trousseau de clés. Peu après, la porte s'ouvrit en grinçant. À la lueur de leurs torches, Thora distingua la silhouette de deux gardiens. D'abord éblouie, elle ne tarda pas à les voir clairement. La barbe de 3 jours, un casque de travers sur la tête, un des types portait une veste d'uniforme de la garde, bien trop grande pour lui. À l'évidence, ce n'était pas la sienne et il ne devait pas avoir intégré le corps d'élite depuis très longtemps. Avec un pincement au cœur, Thora se rappela combien le haut capitaine Avery avait d'allure quand il veillait sur elle et contribuait à égayer ses nuits. Mais son bel officier avait été taillé en pièces en pleine rue par les sbires de Masque Miroir. Un drame qui ne devait rien au hasard. Rongé malgré tout par la jalousie, Maxime avait trouvé un moyen de la poignarder au cœur. Les deux gardes étaient à l'évidence d'anciens esclaves qui paradaient dans des uniformes volés à leurs victimes. Casque de travers reluqua vicieusement Thora, puis lui parla d'un ton qui en disait long sur son niveau intellectuel de fond de latrine.
« On vient de nouveau te rendre visite, Sovrena. Tu te sens pas trop seule ? Même en partie minérale, tu restes appétissante. Si nous te forçons à écarter les cuisses, seras-tu douce et humide là où ça compte vraiment ?»«
Je doute que tu sois assez dur pour le découvrir. »
lâcha Thora. L'autre type ricana comme s'il appréciait le sarcasme.
À moins que je décide d'écraser ton ridicule membre viril comme une limace entre deux pierres. »
À court de répartie, Casque de travers prouva qu'il n'avait effectivement rien d'un génie. L'autre type portait un plateau lesté d'un morceau de pain dur, d'un verre d'eau et d'un petit bol de gruau.
On t'apporte à manger, mais si le siège dure, il faudra rationner les prisonniers.
Thora n'avait pas faim. Alors que ses rustos lui livraient un repas pour la 3e fois, elle n'avait jamais éprouvé le besoin de boire ou de manger. L'eau ne lui disait rien et la nourriture pesait comme du plomb dans son estomac. Tapant sur le plateau, elle l'arracha des mains du gardien et le brisa en deux avec son poing de marbre. Les deux idiots reculèrent, craignant une attaque qui ne vint pas.
« Je ne veux pas qu'on me nourrisse, mais qu'on me libère. »«
Ça, ce n'est pas dans nos possibilités, Sovrena, »
dit l'homme au plateau. Toujours vexé à mort, Casque de travers grogna.
« Eh bien, on va te laisser en ta propre compagnie avec l'obscurité et les rats pour te distraire. Si tu t'ennuies, rêve donc à moi. »
Avec un rictus mauvais, l'homme au plateau foudroya la prisonnière du regard.
« Je te préférais quand t'étais une statue dans la tour du pouvoir. Au fond, tu ne mérites pas mieux. Plus de repas pour toi. Nous garderons ta part pour les braves gens d'Ile-Dakar. »
Grognant sous l'effort, les deux hommes refermèrent la lourde porte et la verrouillèrent. Puis ils repartirent, la lumière des torches s'éloignant avec eux. Sur son banc de pierre, Thora invoqua une nouvelle flamme magique et passa le temps en la regardant osciller doucement au-dessus de sa paume.